Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez pour notre édition spéciale avec toutes les équipes d'Europe 1 en direct de Washington. On est ensemble évidemment jusqu'à 20h pour vous faire vivre cette journée d'investiture de Joe Biden. Ça n'est pas terminé, mais ça y est, cette fois il est bien le 46e président des États-Unis d'Amérique à 78 ans. On sera sur place avec nos invités et nos envoyés spéciaux évidemment pour parler de tous les sujets de l'Amérique de demain. D'abord le résumé de cette journée et le reste de l'actu évidemment avec Isabelle Millet. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les Américains.
Et ça y est donc, la page Trump est bel et bien tournée. Joe Biden est le 46e président des États-Unis.
Un événement que nous vivons ensemble depuis 18h sur Europe 1 avec plusieurs temps forts.
La prestation de serment sur la Bible et le discours du nouveau président qui se présente comme l'anti-Donald Trump avec la volonté de rassembler et d'apaiser un pays meurtri.
Il jure notamment de vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme intérieur.
Un peu plus tôt, Donald Trump avait quitté la Maison Blanche. Dans son tout dernier discours, il a promis qu'il reviendrait.
On sera à Washington dès le début de ce journal et on verra que sur place, les choses ne vont pas traîner. Didier François nous dira que l'équipe de Joe Biden est déjà au travail. Le nouveau président s'est entouré de pros.
Au sommaire également, chez nous en France, le coup d'envoi des soldes d'hiver. Les commerçants espèrent sauver leur année. Et puis Edouard Balladur qui se défend au deuxième jour de son procès. L'ancien Premier ministre dénonce des mensonges et des rumeurs.
La météo, attention, soyez prudents. Plusieurs départements sont placés en vigilance orange. Anissa.
Oui, 5 exactement, Julien. Placés en vigilance orange, vent fort. Je vous donne le détail à la fin du journal. Et puis demain, la pluie vient se mêler au vent. Les températures, elles restent toujours aussi douces.
Écoutez le monde changer.
Et nous le vivons donc ensemble sur Europe 1 depuis 18h. Maintenant, cette journée historique aux États-Unis. Depuis un peu plus d'une heure, Joe Biden est officiellement le 46e président américain.
Oui, et dans son discours d'investiture, il a donc mis en avant sa volonté de rassembler les Américains.
Je suis honoré de l'espoir que vous avez placé en moi. Mais à tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, laissez-moi vous dire ceci. Attendez un peu de voir ce que j'ai à cœur de faire. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, alors soit. C'est la démocratie. C'est ça, l'Amérique. Le droit d'être pacifiquement en désaccord. Dans le respect de notre République, qui est peut-être la plus grande force de cette nation. Mais écoutez-moi bien. Ces désaccords ne doivent pas mener à la désunion. Je serai, et je vous le promets, le président de tous les Américains. Tous les Américains.
Comme le veut la tradition, Joe Biden a donc prêté serment sur la Bible avant de prononcer ce fameux discours face à une poignée d'invités triés sur le volet et à une nuée de drapeaux puisque, vous le savez, Covid oblige, les Américains ne pouvaient pas assister directement à cette cérémonie.
Oui, cérémonie que vous avez suivie, Xavier Yvon, vous êtes en direct de Washington. Cérémonie empreinte de solennité et très différente d'ailleurs de celle à laquelle vous aviez pu assister il y a 4 ans.
Ah bah oui, puisqu'il y a 4 ans, j'étais sur une pelouse au milieu de la foule de partisans de Donald Trump face au Capitole. Et là, évidemment, rien de tout ça. On a eu une investiture totalement inédite. En fait, cette cérémonie était à l'image de l'état dans lequel Donald Trump laisse l'Amérique, ravagée par une pandémie et sous haute tension sécuritaire. Il suffisait de voir le décor de cette investiture, les marches du Capitole clairsemées, très peu d'invités, à peine 2000, assis sur des chaises, à bonne distance les uns des autres, tous portant un masque, et le mall totalement vide. Donc cette immense esplanade de la capitale qui, en temps normal, aurait été noir de monde. Tout à l'heure, le cortège de Joe Biden, qui est encore au Capitole, qui n'est pas parti, ce cortège va remonter les rues de Washington, non pas bordées d'une foule en liesse, mais d'hommes en uniforme et d'immenses grilles de protection pour éviter toute nouvelle attaque des partisans de Donald Trump. Elle date d'il y a 2 semaines, celle sur le Capitole. Un contexte et une ambiance aussi très différentes. C'était tendu il y a 4 ans avec un discours violent de Donald Trump et les visages figés des Obama et des Clinton. Là, on a eu un discours sobre, rassembleur de Joe Biden. Et puis, on a senti dans les allocutions, dans les réactions, comme un immense soulagement. Et même dans les images de la fin de la cérémonie où, vous savez, on va se saluer, on a eu des accolades, des rires, des sourires derrière les masques, une franche rigolade d'ailleurs entre Barack Obama et Lady Gaga. Voilà, une espèce d'ambiance de joie, de soulagement. Et puis on retiendra évidemment une image historique de cette cérémonie, c'est celle de Kamala Harris, son grand sourire, son manteau violet, sa main droite levée pour devenir la première femme, la première afro-américaine et la première américaine d'origine asiatique vice-présidente des États-Unis.
Merci beaucoup Xavier Yvon, en direct de Washington.
Une cérémonie sans public, vous l'avez compris, mais à laquelle ont quand même pu assister de loin quelques Américains très motivés venus spécialement pour l'occasion.
Et vous êtes à leur côté aux abords du Capitole, Alexis Guilleux.
Oui, bonsoir. Au plus près qu'il est possible d'être du Capitole, hein, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres du siège du Congrès, le périmètre là est bouclé par la garde nationale. On les voit, hein, les soldats armes à la main, alignés derrière ces grandes barrières noires de 2-3 mètres de hauteur surmontées de barbelés. Pas de circulation dans le secteur, il faut passer des checkpoints pour s'approcher. Malgré cela, eh bien, donc, il y a quelques spectateurs venus braver les consignes. Pendant la cérémonie, on a regardé cette cérémonie penchée sur les téléphones portables pour suivre la prestation de serment et le discours de Joe Biden. Les personnes rencontrées voulaient assister absolument à cette journée qu'il qualifie d'historique. Écoutez par exemple Doug, il a fait la route depuis le Michigan dans la région des Grands Lacs et malgré tout ce dispositif sécuritaire, eh bien, il voulait être là à Washington.
Je voulais vraiment être témoin de ce moment, avec tous ces militaires et cette présence policière qui protège le gouvernement de son propre peuple, à cause de la manière dont les partisans de Donald Trump ont attaqué le Capitole. Je ne crois pas qu'il y ait un sentiment d'unité. Je crois qu'il y a un sentiment d'espoir. On est dans un entre-deux. L'ère Trump est terminée et l'ère Biden commence tout juste. L'unité, c'est quelque chose qu'il faudra développer avec le temps. On sait que le nouveau président ne va pas résoudre tous les problèmes, mais le président ne devrait pas être le problème.
Voilà, et comme Doug, de nombreux spectateurs ont fait le voyage jusqu'à Washington. Un homme est venu, par exemple, avec ses trois fils depuis l'Arizona, c'est de l'autre côté du pays. Alors lui ne se dit pas politisé, mais voilà, il voulait voir l'histoire en marche. Il estime que c'est important pour ses enfants d'être là à Washington. Et il aurait aimé être un peu plus proche du Capitole, comme tout le monde ici. Alors il y a le soulagement dans les esprits après quatre années de pouvoir de Donald Trump. L'espoir, l'histoire également, c'est les mots qui reviennent le plus, avec également le nom toujours de Kamala Harris, première vice-présidente des États-Unis, première afro-américaine à ce poste.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1, aux abords donc du Capitole à Washington.
Donald Trump, qui donc n'a pas assisté à cette investiture, a laissé une lettre pour son prédécesseur, pour son successeur, avant de quitter la Maison-Blanche, comme le veut la tradition.
Oui, c'était un peu après 14 heures. Donald Trump et son épouse Melania ont embarqué à bord d'un hélicoptère, direction la base d'Andrews, où celui qui était encore président pour quelques heures a prononcé son tout dernier discours, avant de s'envoler vers la Floride, d'abord d'Air Force One, il vient d'arriver.
Alors, on était bien sûr attentif à chaque mot, parce qu'avec Donald Trump, on sait qu'on peut s'attendre à tout.
Et oui, sauf que pour une fois, Sonia Dridi, vous êtes également à Washington. Pour une fois, pas de coup d'éclat, ni d'énervement, juste une promesse.
Oui, Donald Trump, que l'on s'est humilié et frustré, est parti en catimini, mais il a promis qu'il serait bientôt de retour.
Ça a été quatre années incroyables. Ce que nous avons fait est extraordinaire. Ça a été le plus grand honneur, le plus grand privilège d'être votre président. Je me battrai toujours pour vous, donc c'est juste un au revoir. On vous aime, on reviendra d'une manière ou d'une autre. Bonne vie à vous et à bientôt.
Selon le Wall Street Journal, le président sortant aurait l'intention de créer un parti politique, le Parti Patriote. De nombreux élus républicains lui ont tourné le dos ces derniers jours, notamment après l'assaut du Capitole que certains l'accusent d'avoir provoqué. Mais sa base électorale est toujours très solide et Trump a pris goût aux meetings de campagne. Des anciens conseillers à la Maison-Blanche le suivent en Floride, à commencer par son gendre Jared Kushner. Et c'est depuis sa villa de Mar-a-Lago qu'il pourrait rapidement commencer les consultations. Et s'il n'en est pas empêché par son procès en destitution qui est en cours, il pourrait être à nouveau candidat en 2024.
Sonia Dridi, à Washington pour Europe 1, en tout cas on l'a bien compris, cette passation de pouvoir ne ressemblait à aucune autre.
Oui, l'autre rupture spectaculaire par rapport à la dernière passation de pouvoir, c'est que Joe Biden a déjà choisi l'ensemble des responsables qui auront la haute main sur la sécurité, la diplomatie des États-Unis dans son administration, alors que Donald Trump avait mis plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois à les sélectionner.
Oui, Biden qui s'est entouré d'une équipe composée de pros, hein, tous très reconnus dans leur domaine de compétences. On en parle avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Et là encore, hein, grosse rupture avec Donald Trump qui lui avait plutôt promu des fidèles, hein, pour récompenser leur loyauté.
C'est ça. Alors d'ailleurs, on a un mot pour ça à Washington, hein. C'est le retour aux affaires du blob. Voilà, alors le blob, c'est un peu l'énarchie américaine, une caste de hauts fonctionnaires, propres sur eux, effectivement très professionnels, qui font carrière avec des allers-retours permanents entre le public et le privé, passant au gré des alternances d'une administration ou d'un centre de recherche universitaire influent à une grande entreprise, en général plutôt liée au marché de l'État. Alors, tout seigneur, tout honneur, c'est exactement le parcours du nouveau secrétaire d'État, qui s'appelle Tony Blinken, 58 ans. Il a été le numéro 2 de la diplomatie américaine sous Obama, après avoir fait ses classes au Conseil national de sécurité. Et puis, il avait ensuite fondé un cabinet d'analyse UP sur les risques géopolitiques, dans lequel travaillait d'ailleurs également le général Lloyd Austin, ancien vice-chef d'état-major des armées, patron du CENTCOM, le plus gros commandant opérationnel américain, et qui devient le secrétaire d'État à la Défense. Même profil pour Avril Haines, ancienne directrice adjointe de la CIA, promue à la coordination nationale du renseignement, ou alors Richard Burns, diplomate d'expérience qui prend la CIA, Jack Sullivan, patron du Conseil national de sécurité. On est donc très loin, effectivement, des francs-tireurs aux trajectoires éphémères et aux idées parfois assez déconcertantes qui orbitaient dans l'entourage de Donald Trump.
Voilà, donc c'est un retour à un mode de fonctionnement plus classique, en somme.
C'est ça, on va gagner en prévisibilité ce que l'on va perdre en originalité. Alors, choix totalement assumé par Joe Biden, qui le justifie par son besoin d'avoir une équipe composé d'individus, dit-il, expérimentés, habitués à la gestion des crises, prêts à fonctionner dès le premier jour. Et de ce point de vue, effectivement, les risques sont faibles de voir basculer l'administration Biden dans les excès des années Trump, avec une diplomatie plutôt éruptive et parfois un poil trop expérimentale. Alors seulement, le nouveau président avait également ajouté un autre critère normalement à la sélection, puisqu'il disait chercher des personnalités novatrices et imaginative. Alors, pour le coup, là, c'est pas vraiment une évidence, les choix qu'il a fait, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Avec un peu de chance, on aura peut-être finalement une administration américaine qui à la fois saura gérer, puis saura aussi aborder les nouveaux défis internationaux avec un œil neuf et peut-être une approche innovante.
Tout ce qu'on peut espérer, en tout cas. L'œil de Didier François, tous les soirs, dans ce journal de 19h sur Europe 1.
Et on continue évidemment de parler des États-Unis, de cette passation de pouvoir inédite, dans quelques secondes, dans le débat du Club des Idées, avec nos invités et nos envoyés spéciaux sur place.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du journal à 19h13, Isabelle Millet, on parle maintenant des commerçants très touchés par le contexte sanitaire qui espèrent donc sauver leur saison grâce aux soldes qui débutent aujourd'hui.
Oui, et qui interviennent alors que les magasins, vous le savez, partout en France doivent fermer leurs portes à 18h ou plus tard. Malgré cette contrainte, Bruno Tripon, qui est commerçant à Bordeaux, espère sauver les meubles.
Le Covid nous a empêchés effectivement de travailler, donc beaucoup de stocks dans les boutiques. Et ensuite, le confinement à 18h amplifie ce problème. C'est plus vrai dans le secteur de l'habillement, où aujourd'hui il leur reste à peu près entre 50 et 80% de stocks à écouler. Et c'est une nécessité économique pour eux. Comme vous pouvez le voir, nous avons ouvert nous-mêmes plus tôt, à 9h, même un petit peu avant. Et dès 9h, nous avons déjà eu des clients. C'est vraiment important d'ouvrir plus tôt pour nos clients. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, on pleure tous nos restaurants, on pleure tous nos cinémas, nos théâtres. Il ne faudrait pas pleurer nos commerces aussi, puisque c'est notre art de vivre à la française qui disparaîtrait. Donc il est nécessaire d'avoir une solidarité de nos clients, et je n'en doute pas. Nous respectons les gestes barrières complètement. Le sanitaire est bien respecté aussi dans toutes les boutiques. Donc on est sûr que nos clients vont venir nous voir.
Le président de l'association du Triangle d'Or à Bordeaux, au micro européen de Stéphane Place. Ce soir, c'est la douche froide pour les professionnels de la montagne. Les remontées mécaniques dans les stations de ski ne rouvriront pas le 1er février, dit le secrétaire d'État au tourisme, et une réouverture mi ou fin février paraît hautement improbable. À l'instant, Matignon indique que le Premier ministre va relancer à partir de demain les concertations avec les partenaires sociaux sur le dossier des retraites.
Voilà, un ancien Premier ministre, on en parle également, âgé de 91 ans, qui comparaît devant la justice. Deuxième journée donc du procès d'Edouard Balladur.
Jugé pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 95 et qui, Chloé Triomphe, a dénoncé aujourd'hui une affaire basée, selon lui, sur des rumeurs et des mensonges.
Oui, dans un propos liminaire d'une quinzaine de minutes, un discours soigneusement préparé dans un style tout ministériel, teinté de quelques piques bien personnels, Édouard Balladur a détaillé ce qui, selon lui, fait de cette affaire une affaire hors norme. Un dossier fondé sur des rumeurs, des approximations, des coïncidences et des suppositions que rien n'atteste, écrit-il. Il n'y a pas la moindre preuve, assène encore Édouard Balladur, la voix parfois chevrotante, mais le ton décidé, malgré sa voix tremblante qui tient ses feuilles. Avec de tels procédés, on condamne n'importe qui, n'importe quand et pour n'importe quelle peine, poursuit-il en direction des juges, leur expliquant doctement qu'il se trouve dans une situation aussi inédite que paradoxale pour quelqu'un qui, durant ses 50 ans d'activité, a souhaité œuvrer pour l'assainissement de la vie politique. Édouard Balladur rappelle que ses comptes de campagne avaient été validés dès 1995 par le Conseil constitutionnel et qu'il déplore que, depuis l'ouverture des différentes enquêtes, sa culpabilité supposée soit quasi devenue une vérité historique. Fatigué, il a quitté les débats au bout d'un peu plus de 2 heures et devrait être interrogé la semaine prochaine.
Chloé Treillant du service police-justice d'Europe 1 qui suit donc ce procès. Puis des nouvelles du handball, hein, on en parlait tout à l'heure, France-Algérie, début du tour principal du mondial. Eh bien, les Bleus mènent pour l'instant 26 à 24, hein, c'est très serré.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle. On espère qu'ils vont gagner ce match, évidemment. Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h. La pluie qui arrive aussi à partir de demain, ça c'est une moins bonne nouvelle, ma chère Anissa.
Avec la dépression Gaëtan, on a une perturbation qui va traverser tout le pays d'ouest en ouest. Alors vous prenez une ligne Bordeaux-Lyon, toutes les régions qui se situent au nord de cette ligne seront sous la pluie demain et en plus de ça, il y aura du vent fort pour tout le monde. Je vous rappelle que 5 départements, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange, vent fort.
Comment vous dites, le Rhône. Merci Anissa.
Il y a un petit accent de là-bas. Hein.
Oui, j'adore, l'accent qui chante, c'est joli aussi les accents. Merci Anissa, on se retrouve demain à partir de 18h. Il est 19h17 en attendant. Dans un instant, on sera avec nos invités évidemment pour revenir sur les enjeux de la présidence de Joe Biden et il y a des choses à dire. D'abord la carte blanche spéciale US évidemment. Offerte ce soir à Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Nicolas Bouzou qui est à mes côtés en studio. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous revenez évidemment sur les États-Unis qui restent, dites-vous, une superpuissance mais qui décline.
Alors, je ne sais pas si les États-Unis déclinent. Ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de problèmes aux États-Unis, très clairement. Alors, il y a eu bien évidemment les aventures militaires en Afghanistan, en Irak, qui se sont avérées être des bourbiers extrêmement coûteux. Il y a les inégalités. Hein. Joe Biden en a parlé, d'ailleurs, aujourd'hui. Il a évoqué la nécessaire reconstruction de la classe moyenne, le revenu médian des Américains. Il a décliné depuis la crise de 2008. Il y a le racisme aux États-Unis. Alors, le racisme classique, hein, en règle générale, qui est plutôt à l'encontre des Noirs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle maintenant le racialisme dans certaines oui. universités américaines, qui s'en prend au contraire plutôt aux personnes blanches. Et puis, il y a bien évidemment la compétition avec la Chine.
Bien. Alors, comment les États-Unis peuvent justement dépasser la Chine ? Parce que c'est l'enjeu aussi de la présidence Trump sur un plan diplomatique et économique.
Absolument. C'était l'un des enjeux de la présidence Trump et ce sera aussi l'un des enjeux de la présidence Biden.
Vous m'avez repris, c'est Biden, évidemment.
Oui, mais c'était vrai aussi pour Trump et l'administration Biden est obsédée hein, par la compétition de la Chine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le poids de la Chine et des États-Unis dans l'économie mondiale, aujourd'hui, c'est à peu près le même. Hein. C'est 15% du PIB mondial. Alors, bien évidemment, ça diminue plutôt pour les États-Unis alors que ça a eu tendance à augmenter pour la Chine. Vous savez, Hubert Védrine, dans les années 90, avait forgé ce concept parlant
ancien
des États-Unis.
Ministre des Affaires étrangères.
Voilà, ouais. D'hyperpuissance, c'est-à-dire une puissance qui dominait tout. Aujourd'hui, il n'y a plus une hyperpuissance, mais il y a deux superpuissances qui sont en compétition, d'autant plus que derrière cette compétition économique et technologique, il y a aussi la compétition en réalité entre deux modèles. Le modèle chinois du capitalisme totalitaire et le modèle américain de la démocratie libérale. Et l'histoire a montré que la géopolitique s'accommodait assez peu de deux puissances qui sont en compétition.
Mais aujourd'hui, Nicolas, pour conclure, les États-Unis restent quand même économiquement supérieurs à la Chine.
Mais oui, alors ils restent économiquement très puissants, ils restent technologiquement très puissants. On l'a vu avec les GAFA, hein, ces entreprises Amazon, Facebook, Apple, mais on pourrait ajouter aussi Airbnb, Netflix, qui dominent le monde et qu'on a du mal
Tesla
à réguler
aussi.
En
Tesla,
Europe. Tesla,
désormais.
Bien évidemment, SpaceX dans le domaine spatial. Mais les États-Unis restent aussi militairement dominants. La dépense militaire aux États-Unis, c'est 3 fois la dépense militaire en Chine. Ils restent dominants culturellement. Le monde reste américanisé. Regardez, en ce moment, on a des débats, par exemple, sur la série Lupin. Alors, Lupin, c'est vrai que ça se passe à Paris. C'est vrai que son héros est un Français qu'on adore, qui vit aux États-Unis, mais enfin, cette série, elle est quand même produite par Netflix, qui est l'une des plus grandes entreprises du secteur de la
mais
culture
ça fait parler
au monde.
De la France, ça c'est pas mal quand même.
Parce c'est que formidable.
C'est l'une des séries les plus vues à travers le monde sur la plateforme.
Absolument, et c'est forcément aussi une bonne chose pour la France. Et puis, dernière chose, les États-Unis restent un pays très vivace hein, du point de vue démocratique, parce que ce que l'on a vu pendant la présidence Trump, c'est que tous les contre-pouvoirs, le Congrès, la justice, oui. les médias, l'opinion publique, avaient très bien fonctionné. Donc, je ne dirais pas pas que les États-Unis sont une puissance qui décline. Je pense que ça reste une très grande puissance, mais une puissance qui change.
Et on verra ce que donnent les 4 ans à venir, évidemment, de Joe Biden. Merci, Nicolas, pour cette carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite de notre édition spéciale américaine, on suit toujours ensemble cette journée historique à Washington d'investiture de Joe Biden, désormais donc 46e président des États-Unis. On en parle ce soir avec nos invités. Yannick Mireur, bonsoir. Vous êtes politologue et spécialiste, évidemment, des États-Unis. On en parle également avec Didier Combeau. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques, auteur de « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle » publié chez Gallimard. Et on en parle avec Anne Desine. Bonsoir. Vous êtes juriste, politologue, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre et auteur de « Les États-Unis et la démocratie » paru aux éditions Lamartin. Je voudrais, avant de vous entendre les uns et les autres et d'entendre évidemment Joe Biden qui a fait il y a quelques instants son discours d'investiture, rejoindre l'un de nos correspondants, Xavier Yvon, qui est au plus près du Capitole, où Joe Biden est en ce moment en train de signer les documents officiels pour devenir le 46e président des États-Unis, Yvon.
Oui, c'est la suite de la cérémonie. Hein. C'est voilà, comme après un mariage, il faut signer des papiers. C'est un peu la même chose. Joe Biden signe ses papiers officiels. Il signe aussi des nominations pour son futur gouvernement. Joe Biden, qui est donc devenu le 46e président des États-Unis dans cette cérémonie absolument inédite. Hein. On l'a décrite vide, chaise distance, pas de public, sous haute sécurité. D'ailleurs, il faut le noter, il ne s'est rien passé d'anormal pendant cette cérémonie. Il n'y a pas eu d'incident de sécurité. Il n'y a pas eu de violence. C'était quand même le danger. Alors, avec les 25 000 soldats de la garde nationaux déployés, c'était difficile qu'il se passe quelque chose. Oui. Mais j'ai regardé un peu sur les forums complotistes, vous savez, les adeptes de QAnon, ce qui se racontait. Et il y a beaucoup de déceptions chez ces adeptes du complot. Ils espéraient que les militaires prennent le pouvoir ou que les démocrates soient arrêtés, qu'on empêche la cérémonie d'investiture. Et rien de tout cela n'est arrivé. La cérémonie s'est déroulée tout à fait comme
bien, merci mon cher Xavier. Vous restez évidemment en direct avec nous. On vous retrouvera tout au long de cette édition spéciale jusqu'à 20h. Quelle symbolique quand même, Yannick Mireur, le président Joe Biden, 46e président des États-Unis désormais, qui est aujourd'hui dans cette même salle, qui il y a quelques jours encore avait été envahie par les supporters de Donald Trump, avec à ses côtés Nancy Pelosi, dont le bureau avait été squatté par quelques supporters suprémacistes blancs. La démocratie a repris ses droits quand même. C'est important de le souligner.
C'est important de le souligner, c'est ce qu'a fait Joe Biden d'ailleurs, comme on pouvait s'y attendre. En même temps, si je puis donner un contrepoint, puisque évidemment c'est la première chose qui vient à l'esprit, c'est que tout de même, les événements qu'on a vus étaient spectaculaires, mais l'œuvre d'une frange, d'une simple minorité, alors en partie préparée peut-être par certains, d'autres ont plutôt suivi, c'était aussi...
Mais le choc des images pour la plus grande démocratie au monde,
non,
quand même.
Non, bien sûr, non, mais c'est aussi spectaculaire que c'est ce que ça a été quand même relativement marginal en termes de ce que ça peut, de mon point de vue, représenter dans la politique américaine. Et sans surprise donc, et c'est là que tout l'exercice d'ailleurs a été livré, l'objectif de Joe Biden, ou enfin en tous les cas son axiome principal, était celui qu'il respire, parce que c'est sa vie, c'est sa personnalité, à savoir revenir à une pratique décente, consensuelle dans le sens de se parler aux États-Unis. Et pour cela, en effet... Vous avez parfaitement raison.
C'est un jour historique qui se passe évidemment aux États-Unis à chaque fois qu'on change de président, Anne Desine. Mais cette cérémonie d'investiture, après 4 ans de Donald Trump, elle revêt quand même un caractère assez particulier, un caractère singulier dans les symboles. On a vu tous ces symboles qu'a utilisé Joe Biden dans la construction de cette cérémonie. C'est aussi un message d'unité qu'il veut envoyer au peuple américain.
Oui, et c'est tout à son honneur qu'il ait réussi à faire passer deux messages, le message d'unité, mais aussi de donner l'impression d'une passation de pouvoir pacifique, comme c'est la tradition. Parce qu'à un moment, enfin, nous savions que le président Trump ne serait pas là, mais il n'était pas certain que Mike Pence soit là, il n'était pas certain que certains des leaders républicains soient là. Et finalement, peut-être à cause de l'insurrection sur le Capitole, que moi je ne sous-estime pas, je pense que les propos de Donald Trump pendant 4 ans ont vraiment encouragé cette frange d'extrême droite à grandir, et elle est devenue légitime. Et donc, c'est d'ailleurs un des dangers dont a parlé Joe Biden dans son discours. Il a parlé de la vérité, il faut rétablir la vérité, et il a parlé des ennemis à combattre, et les suprémacistes blancs en font partie. Donc, en fait, malgré le virus, malgré les mesures de sécurité, 25 000 troupes de la garde nationale plus des énormes barrières, Washington en état de siège. Malgré tout cela, finalement, il a réussi, ses équipes ont réussi à faire une cérémonie très émouvante et qui envoyait les bons signaux comme habituellement,
oui.
Parce que c'est un rituel, cette cérémonie.
Je vous donne la parole dans quelques instants, Didier Combon. On marque simplement une courte pause et on se retrouve toujours pour commenter en direct cette journée particulière en direct de Washington avec nos invités. À tout de suite. I will be president
for all Americans. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite toujours de notre édition spéciale américaine, on suit ensemble cette journée historique évidemment à Washington. Joe Biden, 46e président des États-Unis. Alors juste avant la pause, on parlait des symboles de cette cérémonie d'investiture. Il y a, c'est vrai, les symboles, il y a la représentation de cette Amérique progressiste, démocrate qu'il a scénarisée avec les différentes prises de parole. Et puis il y a la politique aussi qui va reprendre ses droits. Didier Combeau, vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques, parce que Joe Biden veut aller très très vite. Il a déjà annoncé qu'il allait prendre 17 décrets, 17 actions pour revenir sur les mesures phares de Donald Trump. Alors ça va du retour dans l'accord de Paris sur le climat, ça va au masque obligatoire dans les bâtiments fédéraux, ça va à l'arrêt de la construction du mur avec le Mexique. Voilà, donc on sent que Joe Biden veut aller très vite pour rebâtir une Amérique plus égalitaire, de son point de vue en tout cas.
Oui, bien sûr, il veut aller très vite. Alors, sur tous les sujets que vous avez cités, ce sont des décrets. Donc, un décret qui a été pris par le président Trump peut très bien être annulé par le président Biden. Ce qui va être plus difficile, ça va être de faire adopter des textes au Congrès. Mmh. On pense par exemple à la question...
Précision pour nos auditeurs, il a une courte majorité d'une voix au Congrès.
Alors, il a une courte majorité...
Au Sénat, pardon.
À la Chambre des représentants. Et au Sénat, c'est 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates. Et c'est la vice-présidente Kamala Harris qui pourra départager en cas d'égalité des votes. Ce qui veut dire qu'au Sénat... il faut que tous les démocrates votent les propositions qu'il fera. Et ça ne sera pas toujours le cas. Donc il va falloir qu'il travaille aussi avec des républicains pour réussir à obtenir une majorité. Et ce sera assez difficile, par exemple, sur la question du plan de relance de l'économie, oui. Puisque le Congrès a eu beaucoup de mal à en adopter un. Ce sera difficile aussi sur des questions comme l'immigration, hein, la naturalisation des 11 millions d'immigrants illégaux qu'il souhaite.
Sur le plan de relance, justement, puisque vous en parlez, Didier, sur le plan de relance, Yannick Mirard, peut-être un mot là-dessus. La relance économique, ça va être évidemment l'un des enjeux majeurs avec la lutte contre le Covid des prochains mois. Le plan, il est massif, 1900 milliards de dollars. Il y a le doublement du salaire minimum qui pourrait passer de 7,25 dollars à 15 dollars payés chaque heure. Et puis un chèque individuel, ça c'est quand même, c'est ce qu'on appelle l'argent hélicoptère. On en avait beaucoup parlé, distribuer de l'argent à tous les Américains. Un chèque de 1400 dollars pour relancer la consommation. Est-ce qu'il en a les moyens, ça, Joe Biden ?
Ouais, Trump était favorable d'ailleurs à ça. Hein. Il avait demandé même 2000 d'ailleurs, ce qui était une façon de surenchérir pour lui, en sachant qu'évidemment cela ne pourrait aboutir, puisque parmi les républicains, beaucoup s'y opposeraient, etc. etc. Mais disons que ça va être le test clé. Et comme ça vient d'être dit, c'est un enjeu majeur parce que ça va, comment dirais-je, tester la capacité de l'administration démocrate à aller au-delà de ses limites et à créer des coalitions. Et ce qui est d'ailleurs un enjeu, au-delà même du plan de relance économique, évidemment la priorité derrière le plan de coordination fédérale de lutte contre la pandémie, c'est la priorité. Mais c'est même plus que ça, parce que, après ce qui s'est passé au Capitole, après la présidence Trump, etc., l'enjeu de fond et la capacité des démocrates et des républicains, au Sénat en particulier, à se mettre d'accord sur certaines choses fondamentales, comme par exemple la modernisation des infrastructures, qui est un serpent mer depuis longtemps, c'est de restaurer la crédibilité de la politique. Parce qu'au fond, on peut dire aussi que ce qu'on a vu cet après-midi, c'était bien, c'était la décence, c'était Joe Biden, un homme très humain, etc. Mais beaucoup d'Américains, qui ont voté Trump en particulier, pourraient se dire, ah ben voilà, il est parti et maintenant c'est les mêmes qui reviennent. Donc le défi, véritablement, je pense, le cœur du défi, au-delà de toutes les questions de politique publique, santé, économie, emploi, formation, ça va être que les Américains se disent, bon, mais quand même, cet électrochoc, quelles que soient leurs opinions, il a eu lieu, mais au moins après ça, Biden a réussi à rétablir le crédit de la vie politique.
Alors, on est en lien et en ligne téléphonique avec Léa Pizard, ancienne conseillère de Bill Clinton à la Maison-Blanche. Bonsoir, merci de nous accorder quelques instants. Alors, une petite parenthèse, Léa Pizard, j'ai lu que vous étiez la demi-sœur du nouveau secrétaire d'État de l'administration Biden, Anthony Blinken, en lieu et place de Mike Pompeo. Vous l'avez eu au téléphone ?
D'abord, il n'est pas encore secrétaire d'État puisqu'il doit être confirmé par le Sénat, mais nous espérons qu'il le sera.
Bien. Dans quel état d'esprit est-il à quelques jours de prendre ses fonctions alors ?
Il est dans le même état d'esprit qu'une majorité d'Américains, un immense soulagement et la réalisation qu'il va y avoir beaucoup de travail. Que la tâche ne sera pas facile, mais qu'il est temps de s'y atteler et de remettre un peu les choses en place.
Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de dire Yannick Mirror, qui est assez juste hein, d'ailleurs, et qui avait aussi participé à la victoire de Donald Trump ? C'est le retour de l'establishment aujourd'hui à la Maison-Blanche.
C'est le retour de l'Amérique responsable, de la gouvernance responsable. Et si vous avez écouté Joe Biden, d'un moment dont nous avons absolument besoin d'unité nationale. Et il faut que vous regardiez vraiment attentivement qui est Joe Biden. C'est quelqu'un qui a passé de longues années au Sénat, qui est très proche de grands sénateurs républicains, qui sait travailler avec l'opposition, qui sait travailler avec l'aile un peu plus progressiste du Parti démocrate et qui saura vraiment, il est déterminé à unifier le pays, à gouverner au centre. Et il l'a dit très clairement, il ne sera pas simplement le président des Américains qui l'ont élu, mais de tous les Américains. Et ça, vraiment, il le prend très, très, très au sérieux. Autre chose.
Oui.
Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un basculement entre l'élection où des millions et des dizaines de millions d'Américains ont voté pour Donald Trump et ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole. Je pense que de nombreux Américains, électeurs de Trump, se sont réveillés et ont compris ce que représentait cet homme et qu'ils ne voteraient peut-être pas pour lui aujourd'hui. Donc il y a une redéfinition.
Oui.
Chez les conservateurs, qui va tout changer.
On est toujours ensemble. Vous restez avec nous, Léa Pizard. Je vous fais réagir, Anne Desine, dans quelques instants. On marque une nouvelle pause. On se retrouve avec nos envoyés spéciaux, aussi sur place à Washington, car la cérémonie d'investiture se poursuit avec Joe Biden. À tout de suite. Now it's time to
turn the page. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, la suite de notre édition spéciale sur cette journée historique à Washington d'investiture de Joe Biden. Anne Desine, on est toujours en direct et Joe Biden est en ce moment avec sa femme et sa vice-présidente Kamala Harris. On n'en a pas encore parlé ensemble depuis qu'on vous a retrouvé à 19h20. Je voudrais simplement vous entendre sur l'équilibre entre ce couple, président, vice-présidente. Elle a été importante pour lui dans la campagne présidentielle, Kamala Harris. Certains ont dit qu'elle a été un atout de poids aussi pour convaincre les électeurs indécis. Quel rôle va-t-elle jouer à ses côtés ?
En fait, c'est intéressant. Biden, un homme blanc, était le vice-président du premier homme noir élu à la présidence. Et là, même Biden a une vice-présidente qui est d'origine à la fois jamaïcaine, indienne, et qui a fait ses études dans des universités noires, donc qui quelque part est aussi africaine-américaine. Alors, il s'était engagé, Biden, à choisir une femme, et compte tenu des émeutes de Black Lives Matter, etc., du problème de cette injustice raciale, il a été poussé à choisir une femme noire. Et le nom de Kamala Harris s'est un peu imposé parce qu'elle a un parcours sans faute de centriste. Et je crois que Biden voulait une centriste. Certains trouvent qu'elle a été trop stricte dans sa politique pénale lorsqu'elle était procureure puis ministre de la Justice de Californie.
Oui.
Mais c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est brillante, qui a 20 ans de moins environ que Biden. Et d'après ce qu'ils ont annoncé l'un et l'autre, qui devrait jouer le même rôle que Biden avec Obama, c'est-à-dire qu'ils soient tous les deux au moment de prendre les décisions les plus importantes.
Oui, c'est important ce que vous dites parce que ce sera vraiment une présidence partagé, ils feront vraiment équipe. D'ailleurs, Joe Biden déclare régulièrement « Ce sera la dernière que je veux entendre sur les décisions importantes ». Ça veut dire qu'elle sera vraiment consultée. Parce que c'est vrai que par le passé, les vice-présidents avaient parfois un rôle
Dans le passé lointain, ils jouaient très peu de rôle. Récemment, très souvent, le président leur confiait une tâche. Par exemple, Bill Clinton avait confié l'environnement et les nouvelles technologies à Al Gore. Non, mais ce qui est important aussi, c'est que Biden, parmi toutes ses qualités, sait entendre les critiques. Mmh. Et il a choisi une femme qui, quand même, l'a critiqué très, très durement durant les élections primaires, et en particulier durant le premier débat. Et il a appris à l'apprécier, en partie parce que son fils Beau, celui qui est décédé, travaillait très, très bien. Ils étaient tous les deux attorney general de deux États différents. Et le fait que Beau ait dit à son père, avant de mourir, que cette femme était bien, a aidé Joe Biden à la choisir. Cela veut dire qu'elle sait résister, qu'elle ne va pas être un béni oui-oui, comme l'a été Pence avec Trump, et qu'on peut espérer que, même si c'est effectivement l'establishment qui revient au pouvoir, ils ont compris qu'il fallait tendre la main au col bleu à ceux qui ont voté Trump, car ils s'estimaient à juste titre abandonnés par les démocrates, les élites, les républicains, tous ces gens qui menaient des politiques commerciales, qui allaient à l'encontre de leurs intérêts.
Alors Didier Combeau, chercheur associé à l'Institut des Amériques, au-delà du fait que c'est vrai que c'est un peu l'establishment qui revient à Washington et notamment à la Maison-Blanche, et ça n'est pas péjoratif que de dire ça, hein, c'est un état de fait, ce sont de grands professionnels, c'est une équipe de fidèles expérimentés qu'a autour de lui aujourd'hui de Joe Biden, et ce sera sans doute aussi important pour construire l'Amérique de demain.
Oui, effectivement, beaucoup d'entre eux ont assumé des responsabilités sous l'administration Obama. Donc, il a choisi effectivement la compétence. Il a choisi aussi d'avoir une équipe très diverse, hein, puisqu'il y a le premier Afro-Américain à la Défense, le premier Latino qui d'origine cubaine pour la sécurité intérieure, la première femme à la tête du renseignement. Le premier représentant de la communauté LGBT à un niveau
au ministère de la Santé,
ministre,
oui. Hein,
au ministère des Transports. Oui.
Transport. Je pensais que c'était à la Santé.
Transport. Oui. À la Santé, il y a effectivement un premier latino également
et puis une femme aussi pour diriger le Trésor, hein, sera un élément clé. C'est Janet Yellen, 74 ans, ancienne patronne de la Réserve fédérale américaine. Son rôle à elle va être aussi capital.
Oui. Un peu moins inféodée à Goldman Sachs, bien qu'elle ait perçu des sommes importantes lorsqu'elle donnait des discours, que les autres secrétaires au Trésor, y compris ceux d'Obama et de Bill Clinton. Donc ça,
vous
c'est peut-être
qui,
une nouvelle pour la gauche.
Robert Rubin.
Par exemple.
Oui. Oui, qui était un ancien de chez Goldman.
Voilà, ça peut être une bonne nouvelle. Timothy Geithner aussi.
Il y en a eu un certain nombre.
Parti démocrate.
Alors, il y a un élément qui va être aussi important. Peut-être on peut en dire un mot quand même. C'est la lutte contre le Covid. Hein. Ça va être la priorité des priorités. On le rappelle, 400 000 morts aujourd'hui aux États-Unis. Le masque n'est toujours pas obligatoire. Vous avez entendu que Joe Biden pourrait prendre ce décret pour le rendre obligatoire dans certains lieux. Et puis surtout, l'accélération du nombre de centres de vaccination. Et son objectif très très fort, vacciner 100 millions d'Américains pendant ces 100 premiers jours. Ça, Yannick Mireur, on le disait tout à l'heure avec d'autres de mes invités, c'est un marqueur fort, c'est un changement fort.
Il a déjà commencé par nommer un coordinateur, un petit peu l'équivalent de John Kerry pour la pandémie, c'est-à-dire un coordinateur général à la Maison-Blanche, ça ne s'est jamais vu jusque-là, et ça aurait dû être le cas évidemment sous Trump, pour précisément coordonner tout l'effort fédéral. Avec ce que le gouvernement fédéral lui peut faire, tous les leviers de notamment législatifs ou régulateurs que vous venez de l'évoquer, et puis aussi de venir en appui logistiquement en termes de moyens, et le plan de relance est lié quand même aussi à ça, en appui des États et des villes qui sont quand même en première ligne.
Oui.
Je voulais rajouter juste une chose, sans revenir sur ce qu'on a dit avant, mais il y a un risque si vous voulez. Effectivement, les gens sont compétents. Ils ont des CV, ils ont travaillé ensemble autour de Joe Biden, ils se connaissent, donc ça va être fluide, contrairement au mode de fonctionnement complètement erratique, et au départ et aux entrées comme dans un moulin de la Maison-Blanche de M. Trump. Le risque quand même, c'est qu'on ne peut pas effacer les secousses et surtout les problèmes que Trump a soulevés, par exemple sur la Chine, les politiques commerciales, les cols bleus, etc. Donc, il faut aussi éviter le piège du conformisme, c'est-à-dire les gens qui sont trop formatés, si vous voulez, par les grandes écoles, par leur expérience à Washington, et qui ne sont pas assez créatifs.
Bien. Léa Pizarre, vous réagissez à ce qui vient d'être dit dans quelques secondes. On marque une nouvelle pause, 19h47, et on se retrouve avec nos invités. Nous irons à Washington pour suivre tout cela. À tout de suite. À
As I said in this campaign, I will be president for all Americans.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et jusqu'à 20h, on est évidemment en édition spéciale américaine. On suit toujours ensemble cette journée historique à Washington d'investiture de Joe Biden, désormais 46e président des États-Unis, avec toujours notre envoyé spécial Xavier Yvon. Que se passe-t-il alors chez vous au Capitole, Xavier ?
Alors, on vient de terminer une cérémonie traditionnelle de remise de cadeaux pour le nouveau président et la nouvelle vice-présidente. C'était à l'intérieur du Capitole et ça s'est passé dans une ambiance de très bonne humeur. Il y a eu des rires, des sourires, que ce soit avec les républicains ou avec les démocrates. Donc, pour donner un peu une idée de l'ambiance qui continue de cette cérémonie. Je voudrais réagir à ce que disait tout à l'heure Léa Pizarre, parce qu'elle parlait de soulagement chez les Américains, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sent énormément. Alors, à travers cette cérémonie, mais aussi, vous savez, j'habitais encore à New York il y a quelques semaines, et j'ai gardé beaucoup de contacts, et j'ai des groupes de discussion où j'ai des gens qui envoient des messages en disant « j'ai pleuré devant ma télé », même le groupe de discussion des parents d'élèves, vous savez, qui donnent leur sentiment sur cette cérémonie et ce jour. Et c'est vrai que le soulagement, c'est vraiment le sentiment qui domine chez beaucoup d'Américains, c'est chez ceux qu'on croise ici à Washington depuis plusieurs jours. Il y a une dame qui me disait hier, ça va m'enlever un poids des épaules que j'ai depuis 4 ans quand je me lève tous les matins, parce qu'il faut savoir ce que c'était de vivre dans l'Amérique de Donald Trump, où il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Et puisque tous ces Américains attendent maintenant de Joe Biden, maintenant qu'il est vraiment le président américain, eh bien c'est qu'il règle la pandémie, qu'il s'attaque au Covid. Ça, c'est vraiment leur première des priorités pour retourner à une vie normale.
Bien, merci Xavier. À ceci près quand même, Anne Desine, vous êtes juriste et politologue, à ceci près qu'il a quand même un socle aujourd'hui de 35 millions d'électeurs et de soutien indéfectible, Donald Trump. C'est ça aussi la force avec laquelle il part.
74 millions.
Je dis 35 millions parce qu'il y a 75 millions d'électeurs qui ont voté pour lui, mais quand on regarde les instituts de sondage au moment de son départ, là, aujourd'hui, ça correspond à peu près à 35 millions d'électeurs américains.
Ça veut dire qu'il a déjà perdu la moitié de son électorat. Et moi, je suis assez optimiste parce que je pense qu'à terme, c'est très grave que Twitter, Facebook, etc. puissent décider que Paul peut parler, Jacques n'a pas le droit de parler. Mais à court terme, ils ont enfin pris cette décision de faire appliquer leurs conditions générales, qui sont qu'on n'a pas le droit de faire des appels à la haine, de faire des appels à la violence. Et donc, ils ont retiré tous les moyens d'expression, ce que j'appelle les mégaphones de Trump.
Oui.
Et ça, c'est très, très bien, parce que c'est avec ces moyens de communication, avec les plateformes et les réseaux sociaux, qu'il peut colporter des mensonges. Et c'est avec ces réseaux sociaux qu'il les a convoqués devant le Capitole et qu'il leur a dit « Allez, marchez sur le Capitole, ne soyez pas faibles, il faut faire preuve de force pour etc. etc. » Donc, avec en plus l'insurrection du Capitole, il y a tout un tas d'Américains qui ont décidé de prendre leur distance vis-à-vis de Trump. Et donc, bien sûr, ils gardent une certaine force, ils gardent une force de nuisance aussi, comme toujours, et beaucoup d'élus ont encore peur de ce qu'il peut faire lors des élections primaires de 2022. Mais la marque Trump a perdu de son impact, la marque Trump s'est dévaluée, Deutsche Bank l'a abandonnée, sa plateforme électronique. Beaucoup de gens l'ont abandonné et il faut espérer qu'il va passer beaucoup de temps à chercher de l'argent, parce qu'il a 400 millions de dettes, dollars de dettes, et à combattre tous les procès.
Oui.
Les procès des femmes, les procès pour les finances, pour l'insurrection, etc. Donc, ça peut peut-être l'occuper.
Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais en tant qu'observateur, je serais quand même assez prudent, parce que l'histoire nous a parfois montré qu'elle réserve un certain nombre de surprises. Léa Pizarre, c'est un élément que vous craignez, vous, le retour de Donald Trump à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, c'est ce qu'il a dit à peu près dans ces termes lorsqu'il a fait ce dernier discours avant de s'envoler pour la Floride.
Écoutez, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et d'une mauvaise surprise avec Donald Trump, mais là, il part un peu, c'est pas la grande forme, hein. Voyons ce qui lui arrive. Il a perdu énormément de crédibilité avec ce qui s'est passé au Capitole et des soutiens vraiment peu recommandables. Ce qui est en train de se passer là, c'est que le Parti républicain, les ténors du Parti républicain changent complètement leur fusil d'épaule. Risque de le condamner au Sénat, on verra ce qui se passera avec le procès, mais les décideurs du parti se distancent de lui. Donc il sera, je pense, isolé à un niveau politique, ce qui ne l'empêchera pas d'essayer de lancer un mouvement.
Alors,
on verra ce qu'il choisit de faire.
On verra ce qu'il choisit de faire.
Merci. Hélas, probablement présent.
Merci Léa Pizarre. Pour terminer, je voudrais qu'on s'intéresse il nous reste peu de temps, à l'impact pour nous, pour la France. Dans nos échanges commerciaux, Donald Trump a été aussi le président de la mise en place d'un certain nombre de mesures de rétorsion, notamment sur les taxes, les vins français, les alcools, un certain nombre de produits de luxe, l'aéronautique aussi. Didier Combeau, vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques. Est-ce que ça, avec Joe Biden, ça peut changer ou le protectionnisme, ça va continuer ?
Les États-Unis mettront en avant en premier lieu leur intérêt. Donc le style sera différent.
Trump ou Biden, ça restera America first.
De toute façon.
Ça, c'est clair.
Mais l'approche de Biden est beaucoup moins isolationniste que l'approche de Trump. Donc, vous voulez dire
que demain, on continuera à taxer le vin à hauteur de 25% aux États-Unis ?
Ça n'est pas sûr. Il y aura des négociations sur différents points. Biden est quelqu'un de beaucoup plus ouvert que Trump, puisque Trump, c'était America first.
Je pense qu'il n'y aura pas de cadeau à attendre des Américains. Mais en revanche, comme ça s'inscrit dans une forme de retour sur des fondamentaux, le climat, essayer de se coordonner face à la Chine, le terrorisme, l'Iran. Bon, ça va être un package global et ce sera donc rétablir une relation fonctionnelle. Et entre amis, on peut dire on revoit quand même les bases de tout ce qui est tarifaire et commercial.
Andésine.
Oui, je suis assez d'accord. À partir du moment où Biden a bien expliqué qu'il rentrait dans le jeu multilatéral, qu'il voulait réintégrer l'OMS, nommer les juges à l'OMC, essayer de recommencer la négociation de l'accord sur l'Iran, il a besoin des alliés occidentaux, des alliés démocratiques, tant en Europe qu'en Asie. Donc il y aura certainement un rapprochement avec l'Europe, avec la France. Bon, le conflit Airbus-Boeing, ça risque de rester avec des représailles dans le cadre de l'OMC. Mais on peut penser que les droits de douane un petit peu sauvages qui ont été ajoutés sur nos produits de luxe, sur le vin, etc., vont peut-être être au moins réduits dans le cadre de ces négociations pour aller dans le bon sens tous ensemble.
Il y aura un sujet majeur pour tout le monde aussi, c'est quand même l'antitrust sur le secteur de la technologie, de la tech, les données, etc.
Ça et aussi, Emmanuel Macron a déjà adressé un court message, un petit clin d'œil à Joe Biden en lui disant « Welcome back » dans l'accord sur le climat, l'accord évidemment de Paris. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir nos invités pour cette édition spéciale en direct des États-Unis avec, vous l'entendez, l'hymne américain qui a retenti tout à l'heure, Lady Gaga, bien sûr.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, 19h57, Julien Pierce pour le rappel de l'info et notamment de ces événements qui se déroulent toujours en ce moment aux États-Unis. Et puis Émilie Mazoyer. Salut Émilie.
Salut Julien.
Émilie qui reçoit Lady Gaga, ce soir,
mais
n'est-ce pas
Biden à Gaga. Moi j'ai Gaga, c'est normal. Non, j'ai mieux. J'ai Carimouche. Carimouche, c'est une artiste que j'adore qui vient de sortir son troisième album, Folie Berbère. Vous apprécierez le petit jeu de mots avec Folie Bergère. Carimouche qui nous offrira aussi une session acoustique de 2 titres. Et puis on sera aussi au téléphone avec le groupe de rock suédois The Hives qui lance demain une tournée mondiale sur Internet.
Bien, merci Émilie. Et je te vois pour une fois, d'habitude on se voit pas, mais là on se voit par écran interposé. Salut Émilie, salut, à tout de suite. Merci Émilie, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.